Et oui, il est 23h34 sur Europe 1. Vous pouvez continuer toujours à tenter votre chance et nous appeler au 3921. Comme Tiffany que nous accueillons maintenant. Et ben voilà.
Bonsoir.
Bonsoir Tiffany.
Bonsoir.
Bonsoir. Quel âge avez-vous Tiffany et d'où nous appelez-vous?
J'ai 38 ans et j'habite dans le nord de la France.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Tiffany?
En fait, je voudrais parler d'une loi inhumaine et archaïque pour moi, qui dit qu'un enfant né sans vie, mais viable, n'a aucune valeur juridique. En fait, je suis confrontée à cette loi-là parce que j'ai perdu mon enfant à presque 8 mois de grossesse, sous les coups, je dois respecter la présomption d'innocence, sous les coups de mon ex-compagnon.
D'accord.
Qui m'a fissuré la rate. Et qui a entraîné, j'ai fait un collapsus et une hémorragie qui a entraîné le décès de notre enfant à presque 8 mois de grossesse. Et aujourd'hui, en fait, il est poursuivi juste pour violence aggravée, mais pas pour infanticide parce que mon fils n'a pas respiré en dehors de mon corps. Et on me dit que mon fils n'a aucune valeur judiciaire, n'a aucune valeur juridique. Même quand j'ai été le reconnaître à la mairie, on m'a dit, estimez-vous heureuse, madame, qu'il ait un prénom, parce que des fois, ils n'ont même pas de prénom. Quand j'ai dit, mais c'est pas possible, mon fils n'a même pas de nom. Donc, voilà.
Bon. Deux choses dans ce que vous nous dites ce soir et dont on pourrait parler, Tiffany. On va commencer par le plus léger, qui... En tout cas, le moins lourd, hein, dirons-nous, parce que rien n'est léger dans cette histoire. Que souhaiteriez-vous, en fait, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? C'est de donner un prénom. Est-ce que ce prénom, vous l'aviez déjà?
Il a un prénom, c'est un nom qu'il n'a pas. Il a un prénom,
oui.
Il s'appelle Lounès.
Oui.
Mais il n'a pas de nom. Je pense que tout parent, qui on appelle ça des parents anges, se reconnaissent dans mon témoignage. Quand on perd un enfant et qu'on peut même pas leur donner un nom, c'est déjà horrible. Mais là, en plus de dire qu'il n'a pas de valeur juridique, pas valeur pénale, c'est horrible. Hein. Parce qu'en fait, il n'est pas considéré comme un enfant psychique parce qu'il n'a pas respiré en dehors de mon corps, alors que... Ce qui est complètement contradictoire, puisqu'il a fait une asphyxie pulmonaire à l'intérieur de mon corps.
Mais vous avez tout à fait raison, tout à fait raison. Et c'est la loi qui est faite ainsi?
Oui, c'est la loi qui est faite ainsi, parce qu'en fait, si vous voulez, en 2021, en fait, si on disait que mon fils était un être vivant, qu'on s'y rédait comme un être vivant, ça remettrait en... Selon la justice, selon les lois, on se remettrait en question le droit à l'avortement. Sauf qu'en 2021, on ne sait pas encore faire la différence entre le stade embryonnaire et le stade fœtal. Donc, je pense qu'à partir de 25 ans, l'IMG, 25 semaines de grossesse, l'IVG est interdit. Donc, je ne vois pas en quoi ça remet en question le droit à l'avortement, en fait.
Répétez-moi ça parce que je n'ai pas saisi pourquoi vous parliez d'avortement. En fait,
En fait, si vous voulez, là, on m'a expliqué que si on considérait qu'un fœtus à 33 semaines, donc à presque 8 mois,
oui.
On le considérait comme un être humain, ça remettrait en question le droit à l'IVG. Alors que le stade IVG, c'est jusque 14 semaines, si je ne me trompe pas, parce que ça a évolué.
C'est 3 mois.
Et qu'un enfant... ça a évolué un petit peu, je pense que c'est passé à 14 semaines.
D'accord, donc 3 mois et demi.
Oui, voilà. Et un fœtus est viable à partir de 25 SA, 25 semaines d'aménorrhée.
Oui, et là on rentre sur un débat philosophique et profond. Où je n'ai pas envie d'aller parce que, tout simplement parce qu'on pourrait en discuter pendant des heures et selon ce qu'on considère sur la nature d'un fœtus avant l'interruption avant l'IVG en fait et ensuite à 8 mois, moi je pense être d'accord avec vous en vous disant que à 8 mois, pouvoir donner un nom à cet enfant qui, malheureusement, est mort-né, ne me paraît absolument pas choquant et même plutôt évident. Et j'irai un peu plus loin même. Je pense qu'à 4 mois, à 5 mois, à 6 mois, c'est la même chose. Vous voyez, je suis un peu tendance, chacun fait comme il le ressent, comme il le vit. Et que même lorsqu'il y a une IVG, elle peut avoir lieu pour tout un tas de raisons si intimes, si propres à la personne qui prend cette décision, que je trouve que personne d'autre n'a apporté un regard et un jugement là-dessus.
Ah non, mais je suis pas du tout...
Je sais, je ne dis pas que vous jugez. Je vous disais que rapprocher en termes de temps un fœtus qui attend, et puis c'est un peu... C'est un peu tiré par les cheveux, l'histoire, vous voyez ?
Voilà. C'est juste qu'à partir du stade où un fœtus est viable, je ne comprends pas qu'il n'ait pas de nom et n'ait pas de valeur pénale.
Oui, c'est
En fait, on est en train de me dire que mon fils ne vaut rien.
Et ça, qui n'a pas existé.
Il ne vaut rien pénalement.
C'est ça.
Voilà. Il ne vaut rien à l'état civil, il ne vaut rien pénalement. C'est horrible. C'est archaïque comme loi. Et du coup, je me bats contre cette loi-là, à savoir que moi, mon fils, même si j'arrive à faire changer cette loi-là, parce que je me bats, j'écris au ministre de la Justice, j'écris un peu partout, j'alerte les médias, à savoir que je ne me bats pas pour mon fils, parce que cette loi-là, même si je la fais changer aujourd'hui, elle ne sera pas rétroactive. Ça veut dire que mon ex-compagnon, qui est présumé innocent, ne sera jamais poursuivi pour infanticide, alors que pour la plupart de gens bien pensants qui réfléchissent,
il est considéré
comme un être humain.
Oui, et si c'est comme tel que vous le décrivez, oui, il est coupable d'un infanticide. On va marquer une pause, Stéphanie, et on va continuer à échanger ensemble sur ce sujet. À tout de suite. Europe 23h43 sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Tiffany, je partage votre colère par rapport à ce que vous évoquez pour la loi. Finalement, votre enfant est absorbé par la mort, en fait, et n'existe pas pénalement. Et ce qui m'amène à vous poser différentes questions sur... ce qui a pu se passer entre vous et votre ex-compagnon. Dans quel cadre ça se passe, ces coups ?
Ça a commencé après la naissance. C'était une violence déjà psychologique. En fait, l'emprise, je pense qu'on entend un peu parler partout. C'était la violence psychologique. Et puis, ça a été des coups à partir de la naissance des jumeaux.
Vous avez déjà des jumeaux avec cet homme ?
Oui, j'ai eu des jumeaux avec cet homme.
D'accord, très bien.
Et, en fait, ça a commencé à la naissance des jumeaux parce que j'ai accouché à 6 mois de grossesse, donc à 30 semaines. Et c'était, en fait, la violence, elle a commencé à partir de ce moment-là en me disant t'es pas capable de faire une grossesse normale, tu me pourris. J'ai accouché quand il était en vacances, tu me pourris les vacances, ce genre de choses. Donc, et puis la violence est montée crescendo et ça m'arrivait souvent de devoir dormir dans ma voiture parce que j'avais peur qu'ils arrivent à me prendre les jumeaux. Parce qu'ils me disaient toujours, de toute façon, c'est la tactique facile, c'est qu'on prenne nos enfants, on nous menace toujours avec ça, si on va vous prendre, on va prendre les enfants, voilà. C'était toujours ça en fait, la menace, et si tu pars, je prends les enfants. Donc voilà, et puis ça a été, il m'étouffait, il me balançait dans les meubles, il me tirait par les cheveux, c'était devenu, j'avais plus le droit de me laver les dents pour aller au magasin, j'avais plus le droit de porter des sous-vêtements féminins quand il était au travail. J'ai eu trois enfants d'une précédente union et qui habitaient en France. Nous, on habitait en Belgique et moi, je suis revenue en France aujourd'hui. Quand j'allais voir mes trois grands-enfants en France, parce qu'ils ne voulaient plus venir chez moi tellement l'atmosphère était horrible, quand j'allais voir mes enfants en cachette, et une fois, ils s'en avaient aperçu, Et il est arrivé derrière moi, il m'a plaqué au sol, il m'a arraché mon caleçon, il m'a tiré par les cheveux, parce que j'étais partie me réfugier près des jumeaux dans notre chambre. Il m'a tiré par les cheveux, il m'a traîné dans les escaliers. J'étais juste en t-shirt et il m'a jeté dehors en me disant « T'as été faire ta pute en France, bah, tu la feras ici maintenant ». Et je vais tirer sur mon t-shirt pour cacher mes parties intimes.
Vous aviez déjà eu des expériences de violence aussi avant avec le père des trois premiers enfants ?
Non, du tout.
D'accord.
Non, du tout.
C'est la première fois que ça vous arrivait ?
Oui, c'est la première fois que ça m'arrivait.
D'accord.
J'avais un caractère très fort, donc... Au début, je me défendais quand il me tapait, je me défendais, je le griffais, etc. J'essayais de me défendre des griffes pour se défendre, pour le pousser. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il prenait en photo ses griffes. Voilà. Et en fait, chose que je ne faisais pas quand j'avais un coquin, je ne le faisais pas.
Mmh. Il s'est mis à vous frapper au début. Pourquoi ? Toujours pour de la jalousie ?
La jalousie, il était même jaloux des jumeaux parce que j'étais très fusionnelle avec nos enfants. Jaloux de tout le monde. Je couchais avec tout le monde quand il n'était pas là. À la fin, j'avais même plus le droit de regarder par la fenêtre. Il y avait le couvreur qui faisait du bruit chez le voisin. Et j'ai juste regardé par la fenêtre et il m'a dit mais de toute façon, tu as déjà son numéro, tu couches déjà avec. Donc. C'était tout pour un oui ou pour un non. J'étais devenue son punching ball, en fait.
Et lorsque vous avez rencontré ce garçon, vous n'avez pas... parce que je suppose que vous avez mis un certain temps à vous mettre avec lui. Il n'était pas du tout jaloux au début ? Vous n'avez pas perçu ça ?
Il était jaloux, mais en fait, j'ai une enfance compliquée et difficile. Donc, le fait qu'il soit jaloux me montrait qu'il m'aimait, en fait. Quelque part, je me disais, même, et puis le premier temps, c'est la phase lune de miel. On est là sous un piédestal. J'étais la plus belle femme au monde, j'étais la meilleure cuisinière,
oui,
j'étais la
celle qui faisait
le mieux le ménage. Oui, la phase lune de miel, quoi.
Oui.
Et je ne me suis pas doutée du tout que se cachait un monstre derrière.
Mmh.
Mais au début, c'était vraiment l'homme parfait. Il récoltait les informations pour s'en servir contre moi après. Donc, pour me menacer en me disant « Je vais prendre tes jumeaux si tu t'en vas. » Donc, voilà. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il prenait des photos. Et à un moment donné, quand il me tapait, j'ai arrêté de me défendre. Je laissais me taper parce que de peur qu'on me prenne les jumeaux. Et en fait, à la fin, il se tapait tout seul pour dire deux, que je ne sois pas la seule à avoir des coups. Il a pris sa chaussure et il s'est tapé tout seul, il s'est fait un coquard. Et là, je me suis dit, il va rester à en prendre des jumeaux. Donc le lendemain, je l'ai fait parler, j'ai enregistré, je l'ai fait parler en disant, mais tu te rends compte à quel point
Tu quoi, pardon ? Il y a eu une coupure, tu quoi ?
À quel point tu en es arrivé à te taper tout seul ?
Ça ne vous a pas fait peur, ça, Tiffany ? Si je vous dis ça, c'est parce que je n'essaie pas du tout de vous coincer ou de vous mettre dans les cordes, mais on évoque souvent sur cette antenne les comportements manipulateurs, abusifs, d'hommes, hein, parce que malheureusement, il y a beaucoup plus d'hommes violents que de femmes, en tout cas qui osent porter des coups. Et de toute façon, lorsqu'un homme frappe une femme, c'est beaucoup plus grave parce que naturellement, un homme est plus fort qu'une femme. Alors que quand c'est l'inverse, vous voyez, bon, ce qui arrive, il y a moins de dégâts normalement. Mais lorsqu'il a ce comportement, vous ne vous méfiez pas du tout parce que c'est grave de donner des coups.
Mais en fait, c'était pas grave parce que c'était à moi. Donc,
c'était à vous.
Pas grave.
Ça veut dire quoi ?
S'il avait touché mes enfants, là, ça aurait été pas la même. Ça aurait pas été le même impact.
Et qu'il vous touche, c'était moins grave. C'était pas.
Oui, parce qu'en fait, ils apprennent à nous. Comment dire, on est rien en fait. on est devenu des choses, on est devenu rien. Il me disait tout le temps, tu n'es rien, tu n'as rien, tu n'es rien sans moi. Et pour en revenir, oui, j'avais peur, mais j'avais beaucoup plus peur de perdre mes enfants que de recevoir des coups.
En fait, les coups sont venus, ses enfants, ils ne sont pas à lui, donc les coups sont venus en même temps qu'il faisait du chantage sur vos enfants.
Les jumeaux sont... C'est, même s'il refuse sa paternité, c'est bien lui le père des jumeaux, il les a reconnus. Maintenant, aujourd'hui, il refuse sa paternité, mais c'est bien ses enfants. Mais
d'accord, alors, en fait. Si je comprends bien, vous aviez trois enfants d'une première union, c'est ça ?
Oui, et des jumeaux avec...
Et des jumeaux avec cet homme-là ?
Oui.
D'accord, ok, ça y est, j'ai compris.
En fait, j'avais beaucoup plus peur de perdre mes enfants, parce que c'est le chantage de toute maman,
oui.
De tout homme qui a des enfants.
Oui. Et puis on le voit sur cette antenne, on en parle souvent.
Oui. Oui.
Lorsqu'il y a la guerre comme ça, c'est vrai que dès que les services sociaux se mêlent de ces histoires, le placement n'est jamais loin. Donc je comprends que vous ayez eu peur de ça. Et vous n'avez jamais eu la possibilité de partir, en fait, de partir avec les enfants ?
Je suis partie. Quand je partais chez ma meilleure amie, elle me faisait du chantage en me disant « J'ai 30 jumeaux, j'ai des amis policiers, j'ai des amis... » Il y avait un ami policier qui venait s'arranger pour ses retraits de permis, parce qu'il y avait souvent des retraits de permis. Et il me disait « Tu as vu, j'ai des amis policiers, alors si tu pars, je te prends les jumeaux facile. »
Et lorsque vous avez décidé de faire à nouveau un enfant avec lui, est-ce que vous n'avez pas eu peur d'être un peu plus enfermé, un peu plus encerclé, pris en otage ?
Mais je ne l'ai pas su tout de suite, déjà ça n'a pas été... voilà. Et c'était... en fait j'étais déjà dans une spirale infernale, donc... quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit peut-être que ça va réparer le fait que j'ai pas su à compléter toujours dans la culpabilité. Ça va réparer le fait que je n'ai pas su faire une grossesse normale. Parce qu'en fait, moi, je pensais que c'était de ma faute. Parce que je n'avais pas... En fait, nous gangrène l'esprit en nous disant... mais moi, il me disait, tu n'as pas fait... En fait, c'était de ma faute. Parce que je n'avais pas réussi à faire une grossesse normale. C'est pour ça. Tout est parti de la néonatologie. Parce que les jumeaux sont restés 2 mois en néonatologie. Et c'est parti de là, en fait. Tout était... en fait, il me reprochait de ne pas avoir réussi à faire une grossesse normale. Donc, je pensais que comme si j'arrivais à faire une grossesse normale, je redeviendrais comme avant.
Oui.
C'est très, très compliqué. C'est très, c'est très psychologique. C'est très,
Oui. Ça s'appelle l'emprise. Et malheureusement, au milieu de tout ça, il y a cette notion de faire des enfants et donc de donner la vie. Et puis, par moment, de pouvoir affronter un accident, des violences qui mènent aujourd'hui à la situation où vous êtes. Mais je comprends parfaitement l'emprise dans laquelle vous vous êtes retrouvé. Si je vous parle de tout ça, c'est que pour toutes celles qui écoutent ce soir, et qui sont dans ce type de situation, ce type de chantage. Je répète à nouveau que dès la première claque, dès la première insulte, il faut partir. L'amour, ça n'est pas des coups de poing, des coups de pied, des insultes, pute, tu t'es fait baiser par le carreleur, par le peintre, par... vous voyez ce que je veux dire ? Ce mec avec qui... vous avez fait des enfants, en fait, aujourd'hui, se révèle être un moins que rien, en fait, vis-à-vis de vous.
Oui, bien sûr, mais c'est très facile de le dire, et j'entends...
Je suis
à la première claque, mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué, puisque l'emprise est déjà installée. Ils ne se mettent pas à nous taper du jour au lendemain. La lune de miel, elle est déjà bien installée, et en fait... quelque part, ce que vous dites, je l'entends, mais moi, en tant que victime, c'est complexe. En tant que victime, ce que vous dites, c'est un peu culpabilisant pour toutes les autres victimes.
Je ne cherche pas à vous culpabiliser. Je dis simplement, vous avez entendu ce que j'ai dit. Je dis simplement pour toutes celles qui nous écoutent ce soir, tout simplement parce que le schéma est à chaque fois le même, Tiffany. Et vous nous racontez quelque chose ce soir que j'ai entendu 1000 fois déjà. Je rappelle tout simplement que au premier coup, aux premières insultes, il faut peut-être revoir sa position et peut-être envisager de partir. Et pour moi, partir, c'est ce que je dis de manière un peu radicale. Et je ne cherche pas à vous faire culpabiliser. Je dis simplement que, par expérience, en ayant entendu et recueilli la parole de beaucoup de femmes qui ont été victimes des mêmes violences dont vous êtes victime, j'ai malheureusement recueilli la parole de femmes comme vous qui ne sont pas parties et qui ne sont plus là aujourd'hui pour parler.
Mais justement, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, anciennes victimes, on est la voix de celles qui n'ont plus de voix. On est là, on doit, c'est à nous de montrer le chemin, de montrer qu'on n'a plus à avoir peur, c'est pas à nous d'avoir honte.
Bien sûr, mais je ne vous dis.
Je
ne vous dis absolument pas ça. Hein,
Non, c'est juste, en fait, moi j'ai entendu de nombreuses fois, si elle reste, c'est qu'elle aime ça. Si c'était aussi facile de partir, ça se serait, il n'y aurait pas autant de femmes, autant de victimes de féminicides, il n'y aurait pas, ce serait. Voilà.
Non, si c'était aussi facile de partir, vous avez raison.
Qui doit changer aussi.
C'est tout un tas de choses.
C'est tout un tas de choses. Les inspecteurs qui recueillent nos témoignages et quand on porte plainte et qu'on porte plainte. Moi, mon ex est libre en attente d'instruction. Il a fait 24 heures de garde à vue, il est libre en attente d'instruction. J'ai plus de rage, j'ai plus de bébé, j'ai plus d'utérus. J'ai un utérus, mais qui ne servira plus jamais. Il est libre en attente d'instruction. C'est tout un regard de la société qu'on doit
changer. Oui, oui, non, mais vous avez raison. C'est tout un tas de choses qui doit, de toute façon. Si vous écoutez cette libre antenne régulièrement, vous devez savoir qu'on prône un changement radical de la politique vis-à-vis même des hommes violents. Ici, on est plutôt, par ma voix, assez radical sur le changement qui doit être opéré par rapport aux agresseurs, aux hommes violents. Et, c'est-à-dire que pour moi, il y a une tolérance zéro aujourd'hui. Un mec qui frappe sa femme doit savoir que le soir même, il peut coucher en prison. Pas en garde à vue, en prison. En Espagne, ça se fait. Au Canada, ça se fait. En France, rien. En France, il faut que vous ayez un nez cassé, une arcade d'ouverte, du sang en fait, hein, pour qu'il y ait une garde à vue. Donc, bien évidemment, vous avez raison, de par ce système qui ne protège pas les femmes en France aujourd'hui, c'est difficile de partir parce que les infrastructures en plus pour accueillir les femmes, parce que malheureusement il faut en plus que les femmes fuient dans ce pays. Les lois ne sont pas faites pour éloigner. En tout cas, ça n'est pas assez efficace aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu aussi, lorsque je vous dis au premier coup il faut partir, aux premières insultes il faut partir, je pense qu'il n'y a pas d'autre discours à avoir que celui-là. Parce que c'est une question d'éducation, ensuite. Éduquer les gens sur juste le fait qu'on ne frappe pas, au même titre qu'on ne reçoit pas de coups comme ça impunément et on ne reçoit pas d'insultes impunément lorsqu'on partage son espace et en plus on met des enfants au monde avec quelqu'un qu'on est soi-disant là pour aimer et qui est là pour vous aimer et pour vous protéger. On va continuer cette discussion après l'info, si vous le voulez bien, Tiffany, d'accord ? À tout de suite. Pour l'instant, nous sommes avec vous, Tiffany. On évoque ce soir les violences encore faites aux femmes et cette politique autour de ces violences qui doit impérativement avancer dans ce pays. Vous vouliez commenter tout ce que je vous avais dit, donc je vous laisse la parole, Tiffany.
Mais en fait, je ne me souviens plus trop. Non, je disais juste qu'en fait, moi je suis en contact avec pas mal de victimes et on a tous le même regard, c'est difficile de partir et en fait le regard de la société doit changer et doit arrêter de nous culpabiliser avec des phrases de « mais pourquoi t'es pas parti ?»« Pourquoi tu… » Voilà, il y a une emprise qui est derrière, il faut faire évoluer ça, il faut faire évoluer… les lois, donner peut-être de plus de moyens à la brigade des mineurs pour être plus optimiste, pour être plus sur le sujet en fait.
Ça n'est pas des phrases pour vous faire culpabiliser, de vous dire que il faut partir au premier coup ou à la première insulte. Ça n'est pas du tout l'intention que j'ai lorsque j'assène ces paroles. C'est juste une vérité qui, bien évidemment, s'oppose à des situations complexes. J'entends complètement. Ces paroles, elles font partie de tout un changement. Vous parlez du regard de la société. Le regard de ces victimes aussi fait partie de cette perception que cette société a des violences. Et c'est pour ça que le regard des futures victimes doit changer. C'est plus, finalement, à ces femmes qui ce soir écoutent, qui sont encore dans une sorte d'angélisme par rapport au fait que ça n'arrive qu'aux autres de prendre des coups, des insultes. Et c'est plus à elles que je m'adresse plutôt que, bien évidemment, les femmes qui sont au cœur de problématiques plus complexes les unes que les autres. Et j'entends complètement, et je suis parfaitement d'accord avec vous lorsque vous dites que c'est souvent très difficile de partir parce que ce pays ne met pas à disposition ce qu'il faut pour protéger d'abord les femmes. Et ensuite, avant de les aider à partir, déjà de faire partir et d'éloigner les agresseurs. Rien n'est au point. Donc, voyez en ce que je vous dis pour les futures victimes, que c'est une éducation qu'il faut refaire. Un homme ne tape pas une femme. Et en ce moment, nous sommes au cœur de débats qui animent cette société sur les stéréotypes de genre, sur le genre, sur l'égalité homme-femme. Et c'est un problème aujourd'hui d'éducation. On doit échanger, on doit s'attaquer à ces problématiques de société, mais en rééduquant les gens et en faisant en sorte qu'ils comprennent que non, on ne tape pas et on n'insulte pas une femme. Au même titre qu'on n'insulte pas un homme, mais comme je vous l'ai dit, un coup de poing asséné d'une femme à un homme, ça fait beaucoup moins de dégâts qu'un homme qui assène un coup de poing à une femme. Et de par la nature, les hommes sont plus forts que les femmes. Donc, il faut d'abord commencer à s'attaquer à ces hommes forts qui pensent qu'ils peuvent, comme ça, taper, insulter en toute impunité. Et donc, ces paroles-là s'inscrivent dans ce côté éducatif-là. Je pense qu'il faut mettre en garde les femmes qui sont encore dans une certaine naïveté, un certain angélisme, et qui, à la première claque, vont pouvoir dire « c'est parce qu'ils m'aiment ». Mais à partir du moment où vous pensez ça, eh bien, mais là, le piège commence à se refermer. S'il me frappe, et je sais que c'est souvent ça, en fait, vous me l'avez dit vous-même, s'il est comme ça, c'est qu'il m'aime. Personne ne m'a jamais aimé comme ça. Mais finalement, au bout du compte, Tiffany, est-ce qu'aujourd'hui, vous en êtes au même point à vous dire que cet homme vous aime comme jamais on vous a aimé ?
Non, pas du tout.
Bon, ok.
Non, mais non, mais c'est pas contre vous quand j'ai.
Mais
dit,
je comprends. Non, mais je ne le prends pas pour moi. Vous savez, faut pas oublier que cette discussion, elle est écoutée par tout le monde. Donc je vous le dis à vous, mais je le dis pour tout le monde, en fait.
Oui, moi, en fait, ce que je voudrais dire, c'est aux personnes qui voient une femme qui est battue, ne pas porter un jugement.
Non, bien sûr que
non. De changer leur regard. On n'aime pas ça, on a besoin d'aide. Et on a besoin que les lois changent et que les inspecteurs de police nous entendent quand vous voyez que moi, il a été interpellé 15 jours après que je sois rentrée à l'hôpital.
C'est quand même insensé.
J'ai une rate en moins. J'ai quand même un organe en moins.
Insensé.
Il a fait 24 heures de garde à vue. Aujourd'hui, il est libre de faire ce qu'il veut.
Ce mec devrait dormir en prison. Ouais.
Ouais. On est d'accord, mais on est face à une injustice. On est face à plein de choses que, en fait, on parle beaucoup qu'il faut partir à la première gifle et tout ça. Et moi, j'essaye de juste sensibiliser les personnes en disant oui. Ok, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a quelqu'un de ma fille se serait tapé demain et je lui dirais non, mais tu restes ici et c'est tout. Mais en fait, on doit aussi. On doit. mettre le doigt sur l'emprise parce qu'il y a un travail de psychologique derrière. Et le fait que la société nous voie comme des cas sociaux nous aide pas, en fait. Parce que c'est vraiment l'impression que nous avons, en fait, de n'être rien. Ils nous ont réduit à rien, mais la société fait que nous ne sommes rien. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir évoluer dans une société comme ça, de se dire « en fait, je ne suis rien ». Bien sûr qu'il faut partir, je ne dis pas qu'il ne faut pas partir à la première claque, ça c'est sûr qu'il faut partir à la première claque, mais la première claque, en général, elle arrive quand l'emprise est déjà bien installée, déjà qu'on n'a plus confiance en nous, qu'on a l'impression d'être perdu sans l'autre, voilà. Mm-hmm. Donc c'est un débat qui peut durer des heures, parce que l'emprise, c'est quelque chose de très complexe et de très...
L'emprise est quelque chose de très complexe, vous avez raison. C'est très complexe.
Voilà, et il faudrait qu'on arrête de jouer avec... on va prendre vos enfants. Vous savez, moi, je me suis réveillée avec les assistantes sociales à mon chevet, presque. On me dit, alors que j'étais partie depuis un mois quand j'ai eu ma rate. En fait, j'avais une fissuration dans deux temps. J'étais partie depuis un mois quand ma rate a lâché complètement. Mmh. Et je me suis retrouvée avec les assistantes sociales sur le dos parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et tout de suite, on a essayé de me prendre mes enfants. Heureusement, on ne me les a pas pris parce que je pense que là, on me tuait complètement. Mais on doit arrêter. Enfin, au lieu de prendre nos enfants, on devrait nous aider. De nous menacer de prendre nos enfants parce qu'en fait, on est dans un cercle vicieux. Si on nous prend nos enfants, alors on reste. Mais si on reste, on risque de perdre nos enfants et on ne sait plus comment s'en sortir.
Mmh. Oui, oui. Mais si, encore une fois, on en revient à ce dont je vous parlais, c'est-à-dire l'éducation, elle est aussi à refaire chez les policiers qui vous accueillent dans les commissariats. Elle est à refaire au niveau des magistrats qui apprécient et jugent ces affaires. Elle est à refaire au niveau de la loi. Et instaurer une tolérance zéro pour ces hommes violents serait déjà un pas décisif. Parce qu'on a déjà autour de nous nos cousins canadiens et nos cousins espagnols à côté où la tolérance est à zéro et où il y a des résultats mais plus que probants. Ça a sauvé des vies et ça a sauvé des destins de femmes et des destins d'enfants. Parce que quand la loi peut frapper tout de suite fort et de manière à ce que tout de suite une femme et ses enfants se retrouvent en sécurité, et je dis en sécurité, c'est-à-dire ne pas vivre dans la peur en plus de ne pas être protégé comme il faut, ça change toute la donne et ça change la vie et la psychologie même sur plusieurs semaines et plusieurs mois de toute cette famille. Donc mais il y a bien évidemment beaucoup, beaucoup à faire. Et encore une fois, vous avez raison de dire que ça peut être culpabilisant, ce type de parole, mais ça n'est pas du tout le but de la manœuvre. C'est ces paroles que j'ai prononcées et qui disent qu'il faut partir à la première insulte, au premier crachat, au premier coup. C'est pour que ça rentre aujourd'hui dans... le cerveau des filles de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans, qui pensent, Tiffany, que ça n'arrive qu'aux autres. Et qui pensent que la violence ne touche que les milieux pauvres. Je suis vraiment au fait de tout ça, vous savez. Parce que je milite pour ça, je me bats pour ça. Parce que pour moi, une société qui ne fait pas attention à ses femmes sera toujours une société qui boitera et qui sera malade. Et notre société est malade parce qu'elle ne respecte pas les femmes, à plein de points de vue. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut aussi, dans cette éducation, avoir un côté radical si on veut faire avancer les choses. Voilà. Et j'espère que vous allez vous sortir de tout ça parce que, encore une fois, ce soir, vous êtes la preuve vivante que vous avez été agressée gravement par un homme dans votre intimité. C'est-à-dire dans un endroit où vous êtes censé être protégé chez vous et que ce gars, il est libre comme l'air ce soir et qu'il fera une prochaine Tiffany dans quelques mois. Parce qu'il est comme ça. et parce que personne ne lui a dit à un moment, hey, mon bonhomme, viens, on va te coffrer un peu et tu vas faire un peu de prison, là, et puis on va te rééduquer en prison, on va te soigner si tu as un problème, parce que ces hommes violents ont un problème, quelque part, et il serait bon aussi de s'attaquer à ça, aux soins, au suivi psychologique de tout. Alors, il y a du boulot, il y a du boulot. Il y a du pain sur la planche pour Madame Moreno et pour Madame Schiappa. Un sacré boulot, même. Écoutez, je vous souhaite bon courage. En tout cas, n'hésitez pas à rappeler, Tiffany, si besoin.
Si je peux me permettre de juste donner le groupe pour mon fils.
Bien sûr.
Si les auditeurs peuvent signer la pétition pour faire changer cette loi inhumaine et archaïque. Le nom de mon groupe, c'est Je suis Lounès. Donc, je suis plus loin Lounès, L-O-U-N-E-S, pardon. Il y a une pétition qui est en route pour envoyer au ministre de la Justice et au cabinet des procureurs généraux en Belgique pour faire changer cette loi-là. Un enfant né à 8 mois, mais viable, a une valeur pénale, même si mon fils, encore une fois, n'en bénéficiera pas, mais d'autres enfants pourront bénéficier.
Et c'est comme ça que débute l'évolution. On se permettra de mettre les références de votre groupe et de votre pétition sur le groupe de parole de la communauté de la Libre Antenne pour que celles et ceux qui ne l'ont pas bien noté ce soir puissent le retrouver sur notre groupe de parole sur Facebook, le Facebook d'Europe 1 et de la Libre Antenne. Et je vous en prie, signez cette pétition et allez voir ce qui se passe pour Tiffany et surtout pour Lounès qui existe en fait, qui est là en fait. Merci Tiffany pour votre appel et je vous souhaite plein de courage.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne soirée.